Bonjour tout le monde, je suis Sylvain Démenti. Vous écoutez le Club Démenti. Je suis en compagnie de Maps. Bonjour Maps.
Bonjour.
Et on commence une espèce de side quest aujourd'hui. On commence en cette Saint-Jean. Bonne Saint-Jean d'ailleurs.
Oui, Saint-Jean.
En cette Saint-Jean, on va commencer une side quest que je t'ai proposée, Maps. Mm-hmm. C'est-à-dire pour une side quest pour ce podcast. C'est-à-dire qu'on a envie de lire tous les gagnants du roman québécois, catégorie roman québécois, du prix des libraires du Québec. Je vais le dire comme il faut, c'est important quand même. Et ben en fait, moi, l'idée m'est venue parce que je voyais beaucoup sur YouTube les Américains qui lisent tous les Pulitzer, les Britanniques qui lisent tous les Booker Prize, puis je me disais, Qu'est-ce que nous, on pourrait lire au Québec? Qu'est-ce qui parle de nous? Puis, il y en a plusieurs des prix au Québec, là, puis je trouvais que le prix des libraires, c'était probablement celui, honnêtement, celui qui me tentait le plus, là, parce qu'il y en a qui ne me tentent pas tellement. Mais, mm-hmm. Mais de la liste que j'ai vue, je trouvais que c'était un prix intéressant. Puis, c'est ça, je trouve que c'est intéressant de dire, puisque ce sont des libraires qui ont choisi ces titres-là, il y a un aspect un peu, pas concours de popularité, mais il y a un aspect popularité dans le sens que c'est certains titres qui sont choisis et ensuite les libraires peuvent voter. Et ouais. Donc, ça représente un peu ce qui est populaire cette année-là. Mm-hmm. Puis aussi, ce qu'on considère mérite de gagner un prix. Donc, tout ça, je trouvais ça bien intéressant. Toi, est-ce que tu les suis? Est-ce que c'est un prix que tu suis, le prix des libraires du Québec?
Bien, je dirais que depuis quelques années, forcément, avec les réseaux sociaux puis avec les chaînes que je suis, je les vois passer. Tu sais, il y a notre amie Karine qui lit tous les mises en nomination là, des prix des libraires, puis j'étais comme... Mmh. On dirait qu'à chaque moment que ça arrive, je suis comme, moi aussi, j'aimerais ça, mais c'est vraiment un moment comme février-mars qui est proche du Salon du livre de l'Outaouais, fait que ça fonctionne pas pour moi. Mmh. Je trouve ça intéressant. Je trouve que faire aussi le lien entre le prix des libraires, le prix des collégiens, parfois, il y a des choses qui sont très similaires, et les rendez-vous du premier roman, que là, tu sais, avec mon club de lecture, je les lis tous. Donc, il y a tout ça, toute cette dynamique que je trouve très intéressante. Puis forcément, comme tu disais, tu sais, c'est pas un concours de popularité, mais les libraires ne lisent pas tout ce qui est publié en termes de romans québécois cette année-là. Donc, il y a des choix qui sont faits. Comment, pourquoi, tout ça est bien intriguant.
Et, en fait, il y a un comité qui va s'occuper de choisir une certaine sélection. Là. Donc, mm-hmm. ils vont se parler entre eux au cours de l'année, ils vont se donner des titres, tout ça. Mais ultimement, on a une longue liste, puis éventuellement, on a des finalistes. Et puis, dans ces finalistes-là, c'est là que nous, libraires, sommes appelés à voter. Puis, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait cette année, puis ça fait quelques années il y a quelques années, je n'étais plus dans le cercle des libraires, mais je sais qu'il y a peut-être 5 ans de ça, 6 ans de ça. Ben c'est très arbitraire, là. Il y a des, tu sais, on peut voter pour à peu près n'importe quel... Ben, c'est-à-dire qu'on peut voter dans les titres qui sont choisis, dans les finalistes. On peut voter pour à peu près n'importe quoi. C'est pas nécessairement tous les libraires qui votent qui ont tout lu les livres qui sont nommés. Donc, tu sais... En tout cas, comme je l'ai dit dans le temps, là, c'était comme ça. Peut-être que ça a davantage changé maintenant. Mais... et puis, il y avait aussi des... Il y avait aussi des petites situations où j'étais un peu frustré. Par exemple, tu connais mon amour pour Olivier Sylvestre. Il était nommé pour non-fictif, puis moi, je voulais qu'il gagne. Puis j'avais une conversation avec ma gérante à ce moment-là, qui, elle, votait pour... elle votait aussi, là, on votait tous les deux. Mais elle refusait de voter pour lui parce que c'était pas un roman.
La conversation de qu'est-ce qu'un roman?
Oui, mais moi, mon argument face à ça, c'est pas notre job de choisir c'est quoi qui rentre dans la catégorie. Les livres ont été choisis, puis à partir de ce moment-là, nous, on décide lequel on préfère, mais c'est pas notre job d'être sélectif sur ces points-là. En tout cas, bref, c'était mon argument.
C'est l'éternelle conversation pour les rendez-vous du premier roman aussi.
Ah oui?
À chaque année, tu sais, un peu comme Chienne de Marc-Pierre Lafontaine, les gens étaient comme ben, roman, tu sais. À chaque année, il y a comme des livres qui tournent autour de ce débat-là, puis on se ramène au fait que c'est pas à nous d'établir ce débat-là.
Mm-hmm.
Donc, dans votre cercle des libraires, ça me faisait penser à un cercle des sorcières.
C'est
conversations.
C'est quasiment un peu ça.
Un petit peu sectaire.
Oui, c'est ça. Mais, puis entre autres, ben, je pense que c'est cette année, il y avait Hotline qui était une traduction. Donc là, est-ce qu'on compte les traductions? Tu sais, c'était un autre sujet de débat. Mon collègue qui était dans le jury, là, dans l'équipe du prix des libraires, il disait oui, mais là, c'est un auteur québécois, c'est traduit par un Québécois dans une maison d'édition québécoise. Il dit rendu là, c'est dire j'aime pas ta langue. T'sais.
Rendu là, c'est pourquoi tu l'écris en anglais?
Ben, parce que ça doit être un anglophone. Ouais. Là, on a plus de facilité. Il y a beaucoup de Montréalais qui ne parlent pas du tout anglais. Là, ou qui parlent anglais, mais qui ont moins de facilité. Ou qui parlent français, c'est-à-dire qui n'ont pas de facilité.
Je comprends.
Sur notre petit chat, on a un beau salut de Sab. Salut Sab. Sab et les livres. Donc, c'est ça. Alors, as-tu d'autres choses à dire sur le prix avant qu'on commence à parler du livre?
Non, ben en fait, ce que j'ai trouvé intéressant avant de parler de ce livre-là, c'est que je cherchais c'était qui les finalistes des autres années, et il y en a pour toutes les autres années, sauf la première.
Ouais, c'est ça.
Parce que tu sais, je pense que ça va être intéressant aussi, on ne les aura pas forcément lus, mais tu sais, si on a lu d'autres finalistes, ça va pas comme nous situer, nous, est-ce qu'on aurait préféré celui-là ou l'autre? Tu sais, si on a lu un des autres finalistes. Puis là aussi, ça ne situe pas c'était quoi les livres en compétition contre ce livre-là. Tu sais, on a juste, c'est lui qui a gagné, mais il n'y a pas de contexte à tout ça. Donc, je trouve ça quand même assez fascinant. Puis peut-être que lorsqu'on aura lu une dizaine, on pourra les placer en ordre de préférence.
Ouais. C'est intéressant. Ben moi, j'ai envie de faire un clin d'œil à ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que on est en train de un peu former un gala du roman québécois, projet dont tu es le génie. Et puis c'est ça, tu sais, je me suis dit à nous voir aller, là, à voir comment ce projet-là se passe derrière le rideau. Je me dis, c'est peut-être un peu comme ça que ça s'est passé la première année. Là. Ils ne savaient peut-être pas trop comment faire. Peut-être que c'est juste un vote de pure popularité. Peut-être qu'il n'y avait pas de finaliste. Tu sais. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, ce premier prix-là, mais chaque première fois, je pense que ça met des bases, puis ensuite on construit des règles là-dessus. Là.
C'est un très beau parallèle.
Oui, ben, ça m'a fait penser
à faire de hotline, tu sais, nous aussi, il faut faire des barèmes, puis des...
C'est ça.
C'est comme les romans qui sont écrits par deux auteurs, est-ce qu'ils rentrent, est-ce qu'ils rentrent pas, en tout cas, tu sais, j'aurais pas pensé inclure hotline pour cette raison-là qui est écrite en anglais, tu sais, parce qu'il y a une de nos... Wow, tant de questions.
Ben, j'avoue que c'est une citation de mon collègue là, qui disait, ben rendu là, j'aime pas ta langue, c'est ça que tu es en train de dire. Mais en même temps, tu sais, ça peut être valide parce que ces gens-là sont inclus dans des concours que le reste du Québec n'est pas nécessairement inclus. Tu sais, les prix littéraires du Canada anglais, on ne voit pas de littérature québécoise là-dedans, du moins. Du moins, j'en entends pas parler, puis j'en entendrais parler s'ils gagnaient des prix. Donc, c'est ça. Notre ami Sam nous dit « Le monde des prix littéraires et autres est souvent les appréciations d'une élite. » Mais dans ce cas-ci, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant de ce prix-ci, le prix des libraires, c'est que ce sont des libraires, ils ne sont pas... les libraires ne sont pas engagés par des éditeurs particuliers ou par des... ils ne représentent pas... La job d'un libraire, c'est de vendre des livres. Ce n'est pas de représenter un éditeur ou un distributeur particulier. Donc, et aussi, ça vient avec le fait que généralement, les libraires lisent beaucoup, donc ils ont quand même un certain intérêt. Ils lisent quand même une certaine quantité de livres dans une année pour pouvoir en parler. Donc, c'est ça justement que je trouve un peu plus intéressant. Donc, si tu es prête, on peut parler du premier. D'ailleurs, il y a certaines choses intéressantes qu'on va voir là. Si on regarde la liste des gagnants, tous les premiers gagnants, là, c'est Boréal, 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 Boréal. Alors qu'aujourd'hui, dans les 5 dernières années, je pense qu'ils ont eu une nomination, ils n'ont même pas eu un gagnant. Ils ont de la misère à avoir une nomination. Je trouve ça drôle parce qu'effectivement, Boréal a été à un moment donné vraiment la crème. Est-ce que c'est Boréal qui publie des trucs moins intéressants ou est-ce que c'est d'autres éditeurs qui ont fait surface depuis et qui publient des choses très intéressantes aussi? Je pense qu'on pourra... On pourra débattre de ça quand on sera rendu là, là, mais je trouvais ça intéressant de voir comme c'était vraiment souvent là, dans les premières années.
J'avais pas remarqué ça, mais j'avoue que c'est très intéressant. Parce que Boréal, dans les prix ces dernières années, même le prix, tu sais, le rendez-vous du gala, le rendez-vous du premier roman.
Ben, il y en a des prix, là.
Oui, c'est mélangeant. C'est très rare qui a un titre qui vient de Boréal. Fait que, on essaiera de faire notre propre analyse.
Ben, dans ce cas-ci, il faut dire qu'il y a peut-être... Non, il y a quand même pas mal de premiers romans chez Boréal, mais Boréal republie beaucoup ses vieux auteurs aussi. Là. Donc, il y a peut-être ça. Mais bref, premier prix, on est en 1994, on donne le premier prix des libraires du Québec à ce livre, « Homme invisible à la fenêtre » de Monique Proulx, paru chez Boréal en 1993, donc l'année d'avant.
Mm-hmm.
Et là, moi, j'arrive un peu naïf dans ce projet-là. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'avais lu des nouvelles de Monique Proulx. Est-ce que tu avais déjà lu, Monique? Toi, tu avais déjà lu...
Le sexe des étoiles.
Le sexe des étoiles.
Publié une couple d'années après, là, mais tu sais, je dirais peut-être 97-98 de mémoire, mais comme c'est pas un ouvrage récent de cette
autrice-là. OK, OK. Puis est-ce que c'était... Ben je sais que ça parle de transidentité. Est-ce que c'était...
J'avais trouvé ça bien. Oui, j'avais trouvé que ça n'avait pas trop mal vieilli, comme je m'attendais à ce que ça soit vraiment décalé, puis que, tu sais, au niveau des valeurs, puis au niveau d'aborder certaines thématiques, que j'avais trouvé ça vraiment comme déplacé. Mais j'étais comme, OK, tu sais, il y a des petites maladresses, mais je n'avais pas trouvé ça si mal compte tenu de l'écart d'année entre les deux. Fait que, tu sais, ça me... J'étais hopeful pour... tu sais, je l'avais terminé, ça s'était bien lu, ça n'avait pas été un gros coup de cœur, mais ça n'avait pas été comme un abandon ou une grande déception. Fait que c'était là mes attentes pour Homme invisible à la fenêtre.
Excellent. Ben moi, j'avais lu quelques nouvelles que j'avais beaucoup, beaucoup aimées, mais je connais Monique Proulx de nom énormément parce que chaque fois qu'elle sort un livre, elle n'en sort pas à chaque année, là. Elle sort un livre peut-être aux 3 à 5 ans, j'ai envie de dire. Donc, chaque fois qu'elle sort un livre, c'est un événement. On en parle beaucoup, particulièrement en librairie. J'étais curieux de lire ce livre-là. Et moi, j'avais vu le film. Donc, ce livre-là a été adapté au cinéma. Pascal Bussière joue le rôle de Lucie, qui est la version film de Lady. Et c'est James Heidman qui joue le rôle de Max, qui est vraiment excellent. C'est deux grands comédiens qui jouent des performances vraiment incroyables, de ce que je me souviens, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens surtout des performances. Donc moi, je savais un peu dans quoi je m'embarquais là-dedans, et cette histoire-là, ben, c'est l'histoire de Max, qui est un homme, un peintre paraplégique. Généralement, on le trouve dans son appartement. Pour la grande majorité du livre, il est dans son appartement, il peint, il reçoit la visite de plusieurs personnages, une jeune modèle qui veut devenir actrice. Il y a différents amis. Il y a un jeune adolescent qui veut impressionner une femme. Et puis, il y a cette femme, cette lady qui apparaît dans sa vie, qu'il voit dans le bloc appartement d'en face, de fenêtre à fenêtre. Il se voit, il se parle au téléphone. C'est quelqu'un qu'il a connu dans le passé. Cette personne revient dans sa vie, on ne sait pas trop pourquoi, Et c'est un peu ça qu'on va suivre tout au long du livre. OK, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre-là?
c'est vrai. ben, tu sais, je...
C'était pas un début de projet facile.
C'était pas facile. Tu sais, tu le sais un petit peu parce que... Ben parce qu'on s'en est parlé un mini peu. Tu sais, je voulais pas t'en parler trop parce que je savais que la conversation allait pas fonctionner si je t'ai déjà tout dit ce que je veux dire, là. De refaire une conversation en privé et en public. Au début, j'étais quand même intriguée. Le premier chapitre, il y avait vraiment comme beaucoup d'accent sur la peinture. Puis comme je pense, le premier chapitre, il y a comme la description de sa peinture tout au long du chapitre. J'étais comme, OK, ça s'en va où? Puis comme le dernier mot, là, ça m'a tout de suite racheté. Puis j'étais comme, ah, oh, OK, comme il y a quelque chose de vraiment intriguant. Fait qu'au début, il y avait comme cette drôle de relation-là entre moi et le livre de... Il y a comme des pages complètes que je ne sais pas à quoi ils servent. Je suis pas capable d'embarquer, je comprends pas qu'est-ce que je suis en train de lire, mais il y a un moment qui me ramène, puis là, je suis intriguée. Mais est-ce que c'est assez pour me garder tout le long du livre? Je sais pas. Ça m'a pris vraiment du temps avant de comme d'emboîter le casse-tête de tout le monde qui tourne autour de Max, ce personnage-là central. Puis au départ, tout le monde était comme un petit peu interchangeable. J'avais de la misère à mettre chaque histoire avec chaque personnage précis. Ça m'a vraiment pris du temps. Comme, je me suis dit que j'allais abandonner après 50 pages. Mais là, j'étais comme, pour le concept, c'est sûr que... c'est juste 200 pages en plus. C'est, ben, 220. Mais comme, c'était pas si mal que ça. Fait que je me suis dit, bon, je...
Il n'y a pas de souci. On a des animaux à la maison, donc on entend quelques jappements à l'occasion.
Désolée, mon copain est arrivé. Donc, c'est ça. Au début, j'étais vraiment pas certaine. J'ai eu la misère à comme tout emboîter. Mais finalement, j'ai continué à lire en acceptant que je ne comprenais pas tout. Puis la relation aussi avec Lady, c'était beaucoup... J'avais l'impression de suivre une conversation entre deux amis de longue date qui ont plein d'insides, puis que nous... On ne sait pas, on ne comprend pas c'est quoi la teneur de ça, tu sais.
Oui. Oui, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'on arrive un peu dans cet univers-là. Ça nous est pas... Tu sais, les relations ne sont pas claires. Tu parlais des personnages qui sont un peu interchangeables. Moi, il y a deux femmes que je savais encore aujourd'hui, je ne sais pas laquelle est laquelle. Puis il y a deux hommes que j'ai comme bien de la difficulté à dire lequel est lequel. Puis pourtant, il y en a un qui a un rôle assez important dans le passé de Max. Mais tu sais, je pourrais pas te dire c'est quoi le nom de celui qui est important. Puis c'est ça. Donc, puis ce que tu disais, c'est oui, c'est ça, les relations, il faut accepter que ces gens-là se connaissent, puis nous, on les connaît pas, tu sais.
Vu que, comme, je trouve qu'au début, le personnage de Max est vraiment super effacé, et que ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était comme lui, comme que le monde tournait autour de lui, que c'était tout le temps le même personnage au final, qui était l'homme invisible, tu sais, qui était la personne à qui les gens allaient se confier, puis qui allaient retourner voir cette personne-là. Donc, comme beaucoup de personnages, une toile comme difficile à comprendre, qui est tissée, mais comme très simplement, tu sais, c'est pas des liens très fermes qui sont bien établis. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui a été complexe. Puis, c'est ça, la relation avec Lady aussi, qui était probablement le filon qui se devait être l'intérêt. Comme tu sais, on lit ce livre-là pour savoir ce qui se passe, mais au final... J'étais comme, je sais pas si je trouve ça si intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Comme, on dirait qu'on n'en avait jamais assez pour me sustenter, tu sais. C'était comme, ah oh, ben, ils se connaissent, ça provient de ton passé. OK, on ferme la porte. Puis comme, j'ai rien compris de ce qui s'est passé le reste. C'était vraiment awkward, la relation entre les deux. Puis comme, je comprenais pas pourquoi. Puis je suis pas sûre que j'ai compris pourquoi après non plus.
Moi, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre là, en lisant ce livre-là parce que, ben, premièrement, je comprends. Ça, c'est le genre de livre qui est beaucoup axé sur un exercice de style. T'sais, le narrateur est peintre, les chapitres, c'est des portraits de personnages, ou en tout cas, le titre des chapitres, c'est Portrait de. Puis je pense que c'est un peu ça que Monique Proulx essaie de faire, c'est-à-dire qu'elle est dans la tête d'un peintre, donc on voit la vie comme une peinture, donc avec des couleurs, puis avec des trucs, puis c'est un peu abstrait, puis tout ça est un exercice de style qui est très intéressant, je trouve. C'est-à-dire que c'est intéressant, ça pourrait être intéressant. Moi, je suis assez tiède par rapport à ce livre-là.
OK, quand même, hein?
Ouais, parce que j'ai envie de dire que je reconnais l'exercice de style, je reconnais ce que l'autrice a essayé de faire, je veux dire, ce qu'elle a essayé de faire, c'est ce qu'elle accomplit, parce que je pense que c'est réussi, mais j'ai bien du mal à... C'est juste pas un livre pour moi, tu sais, je reconnais sa qualité, mais moi, j'ai malheureusement pas autant accroché que j'aurais voulu.
Mais là, ça me perturbe parce que là, tu sais, j'avais l'impression que comme toi, ça se lisait beaucoup plus fluidement puis que tu étais beaucoup plus... C'était peut-être mon impression parce que
moi, je voulais pas te parler parce que justement, on allait avoir cette conversation publique, mais honnêtement, j'ai pris plus de temps que toi à lire. Là.
Oh, pas wow! Donc là, la question, c'est... Parce que comme tout livre a un public. Qui est le public de ce roman-là, tu sais? Comme qu'est-ce que le public doit rechercher dans ses lectures pour pouvoir apprécier un roman comme ça?
Ben c'est drôle, hein, parce que... Ah, d'ailleurs, je t'ai passé une vidéo, je ne sais pas si tu l'as regardée, mais je t'ai passé une vidéo d'une entrevue de Monique Proulx de 93, c'est pas grave. Puis, c'est une entrevue au le Club des Six, je pense, ça s'appelait. Puis, c'est René Aumirois qui est là. René Aumirois que j'aime, le... Je n'ai que d'admiration pour cet homme-là. Puis il a en sens ce livre-là, là, comme ça n'a pas de bon sens. Puis je me dis, OK, ben c'est ça. Je pense que c'est le genre de public que ça recherche. Ça vient un peu à l'encontre de ce que je disais au début, de dire que le prix des libraires, c'est... Je trouve que c'est des beaux prix, des prix qu'on donne à des livres qui méritent d'être récompensés, mais qui sont lus par, tu sais, les libraires, qui sont lus par les gens, contrairement à ce que Sab disait, qui est souvent l'appréciation d'une élite. Ça, j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à une élite. J'ai l'impression que ça s'adresse à un public vraiment particulier, des lecteurs. Puis, tu sais, je me considère pas un lecteur novice, là. Je lis énormément, puis je lis depuis longtemps. Mm-hmm. Puis je lis toutes sortes de choses, sauf que j'ai l'impression que ça va vraiment plaire à un certain lectorat qui est pas nécessairement, qui se sustente pas nécessairement de littérature populaire, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est vraiment, ça s'adresse à... Ben, je veux pas dire l'élite parce que c'est quand même... je pense sincèrement que tous les livres s'adressent à tout le monde. Je pense sincèrement qu'on a les moyens de s'intéresser à la littérature en général. Donc, je ne veux pas dire que c'est élitiste ou quoi que ce soit, mais ça s'adresse quand même à des gens qui en ont derrière la cravate. Là. Ça s'adresse à des gens qui lisent beaucoup, qui sont beaucoup dans... Ben, peut-être pas dans le milieu, mais qui sont beaucoup dans la littérature, là, je pense.
Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, je trouve que ce qui est un petit peu dangereux avec une œuvre comme ça, c'est que... c'est facile de dire genre « ouais, mais tu comprends pas ce qui s'est passé, là, comme t'as pas assez un niveau élevé pour comprendre l'œuvre et le procédé stylistique. » C'est quasiment une œuvre, je pense, qui serait meilleure à analyser, comme dans les cours de français, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis au final, j'étais vraiment contente de pas l'avoir abandonné, parce qu'il y avait quand même des belles choses à la fin, un moment touchant, puis le portrait du début qu'on a lu dans le premier chapitre, que je comprenais rien, ben il est repris à la fin, puis là, c'était comme, j'ai tout compris ce qui se passait, tu sais. Mm-hmm. Parce que chaque personnage avait un nom, parce qu'on avait vu une portion de l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça un procédé vraiment magnifique. C'est juste que, dans l'exécution, comment on aurait pu faire en sorte que ça soit intéressant au début, même si on comprend, tu sais, même si on n'a pas toutes les clés, pour le ramener à la fin, puis avoir cette épiphanie-là pareil, je sais pas si c'est possible. Mais j'ai aimé le procédé, puis au final, j'étais vraiment contente de ne pas l'avoir abandonné, mais la route a été ardue, malgré tout.
Ah oui, moi, j'ai pas peur de dire qu'il y a des... Comme toi, là, il y a des pages que j'étais comme... Ben, ça, je pense que ça s'adresse pas à moi. Encore une fois, je comprends ce qu'elle essaie de faire, là, c'est vraiment... Tu sais, je le vois à la peinture, là, je le vois à l'artiste, là, qui met de la couleur sur sa toile, puis tu sais, j'avais l'impression qu'elle faisait ça avec ses mots, là, tu sais, elle jetait des choses beaucoup... Mm-hmm. Puis c'est vraiment l'impression que ça donne. Puis ça, c'est réussi, là. C'est très bien réussi. Mais c'est ça, ça n'a pas su garder mon intérêt, malheureusement. Puis c'est drôle ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, ah, ça, c'est un texte qu'on devrait étudier à l'école. Moi, c'est dans mes cours de français que j'ai lu Monique Proulx, les nouvelles de Monique Proulx. Et puis, c'était des nouvelles qui étaient tirées du recueil Les Aurores Montréal. C'était des nouvelles que je trouvais beaucoup plus accessibles que ça, là. Ça, c'est quand même... c'est un texte qui s'adresse aux érudits, j'ai l'impression.
Mais je pense que tu as raison dans le sens qu'elle a voulu explorer quelque chose, parce que moi aussi, j'ai été surprise. Le sexe des étoiles se disait vraiment mieux. Que Homme invisible à la fenêtre. Puis j'ai l'impression que son nouveau aussi, là, enlève la nuit, enlève le jour. En tout cas, il y a quelque chose qu'on enlève, puis je pense que c'est la nuit.
je ne sais pas c'est quoi son dernier. Oui,
En tout cas, j'ai entendu des bons commentaires sur celui-là aussi, fait qu'il a l'air vraiment plus accessible. Fait que je pense que ton filon est le bon, qu'il y avait comme un désir d'exploiter un thème, puis d'aller à fond dans l'écriture, dans le style, dans la forme, puis comme d'embarquer là-dedans, puis de faire jaillir ses mots. Comme j'aime ton image, je le vois, là, puis j'ai rien vu de ça tout le long de ma lecture.
Ah, je le sentais vraiment comme ça. Puis tu sais, quand j'ai vu après ça l'entrevue avec Renaud Mirois, je me disais, ben c'est ça, ça s'adresse à des gens, ça, pour revenir à ta question, ça s'adresse aux lecteurs qui aiment l'exercice de style.
Ouais. Tu sais,
vraiment.
Notre amie Karine, elle me reprend à ça.
Ah, je suis convaincue. Je ne sais pas si elle ne l'a pas déjà lu, mais je suis convaincue qu'elle aimerait ça, non?
Elle m'a écrit justement qu'elle ne l'avait pas lu, que sa mère l'avait beaucoup aimé. Fait que là, j'ai dit, bien, compte tenu de mon appréciation, je pense que tu aimerais ça.
C'est drôle, mais je pensais effectivement que Karine aimerait ça. Je veux revenir sur un petit commentaire que Sab a écrit. J'avais aussi lu Le sexe des étoiles que j'avais aimé et qui, pour les années 90, abordait un thème peu présent dans la société. La transidentité, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup et on n'en parlait pas beaucoup avec respect. On en parlait souvent comme à la blague. Ouais. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est drôle. Je l'ai pas... J'ai vu des petites parties de l'adaptation cinématographique du sexe des étoiles, puis parce que ça passait à la télé, mais tu sais, je pouvais en voir des petites parties, mais pas trop parce que j'avais des parents à la maison, puis je pouvais pas. je pouvais pas regarder ça, là. Donc, c'est ça, mais.
Puis ça aussi, c'est intéressant, par contre, tu sais, dans Le sexe des étoiles, il y avait quand même une thématique, tu sais, pour l'époque, là. Qu'il n'y avait pas. Puis ici, on a quand même un personnage pour 1993, un personnage paraplégique qui est comme le centre du roman. Donc, je pense qu'elle porte attention, une attention particulière à ses personnages, puis à l'inclusivité, puis à la réflexion autour de ça.
Elle traite ses personnages avec énormément de respect. Mm-hmm. C'était la même chose aussi dans ses nouvelles. Elle a une espèce de sensibilité, une espèce de, oui, de grand respect, de, j'ai envie de dire, d'amour pour ces personnages.
Mm-hmm.
Bon, même si... Oui, excuse?
Elle est très intéressante, tu sais, malgré que ça n'a pas été un coup de cœur pour nous.
C'est ça, ben, ça ne m'enlève pas le goût de lire plus de Monique Proulx. D'ailleurs, toi, tu as parlé de son dernier, mais il y avait « Le cœur est un muscle involontaire » qui avait fait beaucoup de vagues à sa sortie. Donc ça, je serais curieux de le lire, tu vois. Je serais curieux d'essayer ça. J'ai envie d'aborder la fin avec toi.
Mmh.
Ouais, c'est ça. D'habitude, je fais mon avertissement au début, je passais par-dessus, mais ceci est un club de lecture. On prend pour acquis que ceux qui nous écoutent ont lu le livre ou alors ça vous dérange pas d'en savoir plus. Moi, j'ai eu un problème avec la fin parce que je me souvenais de la fin du film. Je savais où ça s'en allait. Puis là, je suis arrivé à la fin du livre, là, j'ai lu les dernières lignes, puis j'ai fait « Je suis-tu passé par-dessus? J'ai-tu pas compris? Elle a-tu dit la fin de façon que j'ai pas compris? Peut-être que je passais par-dessus? J'ai-tu manqué une page, quelque chose? » Ou alors, c'est une fin qui est inventée pour le film, je ne sais pas. Mais il y a des punchs dans ce livre-là. Le premier gros punch, c'est que, ben, en fait, j'ai parlé d'un jeune adolescent qui veut impressionner une femme. Il achète une peinture à... J'allais dire James Heitman. Non, Max. Il achète une peinture à Max. Puis, c'est une peinture qu'il avait faite comme ça, là, un peu abstraite, un peu sous le coup de l'impulsion. Alors, il lui vend, parfait, il part avec, puis c'est pour impressionner une femme. Et au départ, on a l'impression qu'il veut impressionner une fille de son âge avec qui il veut sortir. Finalement, on comprend qu'il veut impressionner sa mère biologique qu'il vient de retrouver. Et éventuellement, on va découvrir que le tableau se trouve dans l'appartement de Lady. Donc, c'est elle, la mère de ce garçon.
Ouais.
Comment t'as trouvé ça?
Ben, on dirait que ça m'a pris du temps, ce petit revirement-là, à comprendre, parce qu'il a comme fallu que je défile après, OK, comme la peinture, c'est la sienne. Tu sais, comme tout était tellement flou un petit peu pour moi que comme je suis pas sûre que ce revirement-là, ce punch-là a eu le plus d'impact. Mm-hmm. Parce que là, après, c'est comme, OK, mais c'est qui le père? Est-ce que c'est lui le père? Comme, tu sais, il y avait tous ces questionnements-là. Mais je suis pas sûre que moi, ce punch-là précis, c'est lui qui a eu le plus d'impact sur moi. Puis toi. Okay, mais là, toi, tu savais déjà.
Mais ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je suis arrivée dans ce livre-là en sachant où est-ce que ça s'en allait. Mm. Fait que, tu sais, je peux pas effacer le film de ma tête nécessairement. Il y avait des points. Puis un peu comme ce que tu dis, ben ça, je pense que le tableau, j'aurais vu la ligne. Mais il y a des affaires, comme je te dis, il y a des affaires dans le film que je suis pas sûr que c'est dans le livre. Puis, mais on va en parler. C'est quoi le punch là, qui t'a...
Ben moi, c'est l'accident, là, où, tu sais, où qu'il a perdu l'utilisation de ses jambes, là, comme comment ça s'est passé, puis tout ça, puis qui était là, puis comme l'accident lui-même. Je trouve que comme c'était chargé, parce qu'on connaît pas grand-chose de lui tout au long du roman, tu sais, c'est tout le temps à propos des autres. Mm. Mais là, c'était la première fois qu'il y avait comme un moment intime sur lui, qui est quelque chose qui a beaucoup d'impact aujourd'hui. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était comme bouleversant. Puis aussi, l'autre moment, mais c'est pas nécessairement un punch, mais tu sais, lorsqu'il est parti de l'autre côté pour aller retrouver Lady, mais qu'elle n'est pas là, qu'elle est partie, comme il a mis tellement d'efforts pour monter cet étage.
C'est dur!
C'est vraiment comme violent, là, tout ça. Puis il repart bredouille. En tout cas, mais tu sais, encore une fois, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas.
C'est juste. Non, c'est ça, il y a des choses qu'on ne sait pas.
Ouais.
Parce que. Puis là, j'espère que mon souvenir du film est clair. Peut-être que je mélange avec. Parce que ça fait vraiment longtemps. Moi, j'ai vu ce film-là à sa sortie. Donc, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Mais. Il me semble que dans le film, la raison pour laquelle, puis là, je te spoil le film, je suis désolé.
Vas-y.
Mais je sais que tu n'es pas très cinéma de toute façon. Non. Mais la raison pour laquelle Lady ou Lucy s'est sauvée, c'est parce que les deux autres l'avaient violée. Et après, il y a eu l'accident. Et après, donc, Max s'est retrouvé en chaise roulante. Puis ça, il me semble, c'est ça que je revenais dans le texte, puis tu l'as pas vu, ça?
Non.
Non, c'est ça. C'est peut-être quelque chose, soit je me trompe de film, ou alors c'est quelque chose qu'ils ont rajouté dans le film, ou alors c'est suggéré. Moi, j'avais l'impression, parce que je le savais, si je l'avais pas su, je l'aurais pas vu. Mais parce que je le savais, je me disais, OK, c'est peut-être juste suggéré que c'est ça qui s'est passé. Mais vraiment, là, juste dans le texte, je serais passé complètement par-dessus ça. Là, j'ai pas eu vraiment connaissance de ça. Puis je trouve ça plate parce que moi, mon intérêt de lire ce livre-là tout le long, c'était vraiment d'apprécier Max, d'apprécier ce qu'il faisait avec les autres. Mais moi, je savais là, qu'est-ce qui s'était passé. Ou en tout cas, je savais qu'il y avait un côté sombre à ce personnage-là qui n'était pas montré. Puis c'est ça que je trouvais intéressant, tu sais. Puis je trouve ça un peu plate d'être passé par-dessus dans le livre. J'aurais voulu qu'au moins ça, ce soit comme... Je sais pas, que ce soit clair, que ce soit vraiment comme...
Ouais, j'ai pas vu ça passer, non.
Puis c'est pour ça que Lady revient, puis elle est frustrée, puis là, elle retrouve son fils qu'elle avait abandonné. Puis ce serait donc, c'est ça comme tu dis, c'est pas dit, mais c'est suggéré que c'est le fils de Max.
Mm-hmm.
Puis c'est tout ça, là. C'est là que tous les... Ben en fait, même sans cette idée-là, qui est ou pas dans le livre, je suis pas trop certain, mais même sans cette idée-là, le punch, pour moi, c'est ça qui vient faire en sorte qu'il y a des liens qui se font à travers tous les personnages qui, jusque-là, faisaient juste tourner en rond, ils faisaient juste tourner comme autour d'une piste de patinage. Là. Mais là, à un moment donné, il y a cette twist-là, puis là, je fais « OK, ben ça, c'est une très bonne twist parce que non seulement ça explique, non seulement ça surprend, donc A1 pour la twist, mais ça explique aussi les liens de tous les personnages, puis ça explique pourquoi la deuxième twist par rapport à l'accident, ça explique pourquoi il y a quelqu'un qui se sent tellement coupable. Puis qui... En fait, on ne sait pas qu'il se sent coupable, mais il prend soin de Max tout le long du livre, puis il est là pour lui, puis tout ça.
Mm-hmm.
Donc, ça vient vraiment expliquer beaucoup de choses. Ça, j'ai trouvé ça habile, ça, j'ai trouvé ça bien.
Ouais.
C'est juste que la première de ces deux twists-là arrive à la page 200 à peu près, donc il faut lire 200 pages de personnages qui tournent en rond. Puis...
Oui! Oui, c'est ça. Le processus est complexe pour arriver à... Mais non, j'avais pas vu ça passer. Je sais pas si... Puis tu sais, même dans leur relation, comme lui, il est content, mais il est pas content de la voir. Mais j'avais pas l'impression que comme lui, il se sentait nécessairement coupable, ou peut-être qu'il se sent pas coupable si ça s'est passé ainsi. Je sais pas.
J'aimerais qu'on mette ça entre parenthèses parce que, tu sais, je suis pas sûr que c'est dans le texte.
Ouais.
Mais moi, parce que j'avais ça dans la tête, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, OK, elle, on a l'impression qu'elle revient pour être méchante, mais en fait, elle a une motivation pour être là. Et lui, on a l'impression qu'il veut pas la voir parce qu'il ne l'aime plus, puis il a pas envie de la revoir dans sa vie, mais en réalité, il veut pas la voir parce qu'elle lui rappelle ce qu'il a fait.
Mm-hmm. Ouais, c'est complexe. Alors que
ouais,
comme
c'est
ça pourrait être juste lui, il veut pas la voir parce que ça lui rappelle tout son accident, tout ce qu'il a perdu.
Mm-hmm.
Puis elle, ben on sait pas pourquoi elle est partie, mais...
Mais tu vois, j'en parle avec toi, là, puis je me dis que cette ambiguïté-là, je l'apprécie. C'est pas...
Ouais.
moi, des fois, je suis... En fait, je trouve que l'ambiguïté va avec le fait que, comme tu disais, on ne les connaît pas, ces personnages-là. T'sais, on arrive, puis eux autres, ils se connaissent, ils ont des insides, ils ont une vie déjà établie. Puis c'est ça, donc, tu sais, quand on est au restaurant tout seul, mettons, puis on écoute la conversation de la table voisine, on n'a pas le avant, puis on n'a pas le après, puis il y a des informations qui nous manquent. J'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais.
Mm-hmm. Un peu voyant.
C'est pas nécessairement quelque chose qui... Oui, c'est un peu voyeur, effectivement. C'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange. Mais il faut dire que j'avais l'impression... En même temps, j'avais l'impression d'avoir plus d'infos que j'en avais réellement, tu sais.
Ouais. Ouais. Parce que t'avais les clés du film.
Mm-hmm. Qui est un très bon film. De mémoire, là, j'avais vraiment été impressionné. C'est... Pascale Bussière, elle est au top, là. Puis, tu sais, c'est beaucoup des conversations téléphoniques, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup comme elle téléphone, mais elle réussit à être... à être vraiment intéressante, même si la scène, c'est juste elle qui parle au téléphone. T'sais.
ça doit bien sortir au cinéma. Je pense que c'est tout ce qu'on a de la misère à voir là, avec le médium visuel, ça doit vraiment aider. Mm-hmm. Je pense, à ne pas avoir cette lourdeur-là, puis à comme, se demander ce qui se passe, et avoir, OK, ça c'est tel personnage, ça c'est un autre personnage, à comprendre que tout revient au centre.
Puis honnêtement, plus platement, je te dirais que ça aide à avoir juste des acteurs différents dans les différents rôles pour savoir qui est qui, parce que, comme je te dis, il y a deux femmes, la mère adoptive du garçon, puis une autre femme qui est comme amoureuse de Max, mais mm-hmm. Max veut pas... Tu sais, il y a ces deux femmes-là là, que j'avais bien de la misère à différencier. Puis, le responsable de l'accident et le propriétaire. Tu sais, il y en a un qui est anglophone, fait que je devrais l'avoir... Tu sais, on devrait le reconnaître, mais lequel est dans quelle position, j'oublie.
Mais le propriétaire, moi, la scène là, où il se déshabille puis qu'il veut être comme peint, puis l'histoire avec la petite fille, que comme, tu sais, ça s'apparente tellement comme si c'était un pédophile, mais tu sais, lui, il a juste des intentions nobles, mais t'es comme, fais pas ça, mon chum, là.
C'est ça.
Fait que ça, c'est un moment qui m'a vraiment différencié. En tout cas, ce bout-là pour lui, là, j'étais comme, non, c'est pas l'autre, ça, c'est le propriétaire. Mais effectivement, ils sont très interchangeables, malheureusement. Il y en a beaucoup, puis le travail de différencier, il est peut-être pas à point.
Mm-hmm. Mais en tout cas pour moi, quand je le lisais, ou pour nous, quand on le lisait, là, c'était... C'était pas évident. Puis c'est beaucoup de personnages qui arrivent vite, là. Aussi, c'est un après l'autre. Ben, d'ailleurs, le premier chapitre, c'est la description de tout le monde.
Ouais.
Fait, effectivement, c'était quelque chose. Mais bon, bref. Ça, c'est un commentaire vraiment superficiel, là, mais j'aime beaucoup le titre parce que le titre, il fait vraiment titre de peinture.
C'est vrai.
Je vois que ça fitait vraiment, fait que c'est ça. Bref.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout. Avais-tu d'autres choses à dire sur Homme invisible à la fenêtre?
Non, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Même plus que ce que je pensais que j'avais à dire.
Est-ce que... Bon, on a eu une expérience assez tiède, mais comment tu vois l'avenir de ce projet? Est-ce que tu as hâte au prochain? Qui, je le dis, le prix des libraires du Québec de 1995, c'est Un ange qu'on a avec des airs de tôle de Michel Tremblay.
J'ai très hâte à cette prochaine lecture parce que ça va être une relecture pour moi.
Ah oh, ouais. Oh tu le connais bien déjà. Là.
Je l'ai lu au cégep, je crois. Puis j'avais gardé dans ma bibliothèque beaucoup de livres que j'avais lus là, préalablement. Mais je faisais un élagage d'une couple d'années. Puis j'étais comme, ben, je pourrais peut-être essayer de les relire, voir si je les redonne au suivant ou si je les garde. Et c'est là qu'il y a eu ma première relecture. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé suivre le petit Michel et sa découverte de la littérature. Donc, j'ai pas fait beaucoup de relectures dans ma vie. Imagine le nombre de relectures que j'ai faites. Pas beaucoup, mais je sais que j'avais aimé ça. Donc, j'ai vraiment aucun doute que ça va être le fun puis que ça va être le fun d'en parler. Parce que Excellent. Mes souvenirs commencent à s'estomper. Là. Donc, très excité.
Si je peux faire un lien un peu boiteux, c'est drôle parce que Homme invisible à la fenêtre, tous les titres de chapitres, c'est des titres de portraits, c'est des noms de portraits. Et tous les titres de chapitres de Un ange qu'on a avec des aides de tôle, c'est des titres de livres. C'est des titres de livres qui existent. Donc, je suis vraiment curieux. On le sait pas. Là, j'ai prévenu Maps dès le départ avec ce projet-là. J'ai dit, garde, j'ai envie de tous les lire, mais ça se peut que ce soit trois par année, ça se peut que ce soit un par mois. Je le sais pas. On se met pas de pression. On vous l'annonce parce que si vous avez envie de les lire puis d'avoir notre avis, faites-le. Vous avez du temps puis ça serait le fun d'avoir vos commentaires. Mm-hmm. Mais on ne donne pas de date pour ça. Ce n'est pas un livre par mois. Ça va être quand ça va arriver. On est bien zen là-dessus. Déjà que je lis un livre par mois pour le reste de mon podcast, Ça, c'est un side quest. On l'a dit, c'est un side quest. Ça arrive quand ça arrive.
Je me sens vraiment comme des aventuriers là, avec nos
oui. sites. C'est fun. J'aime bien l'image.
Oui, elle est vraiment jolie. Mais en tout cas, moi, je te dis juste que je vais probablement lire cet été. Mmh. Parce que, un, j'ai plus de temps au mois de juillet puis au mois d'août. Puis que j'ai envie de le relire. Donc, ça va sûrement être cet été.
Ben moi, j'ai fait un petit voyage à Toronto et il était, dont je vais reparler tout à l'heure. Et il était dans ma valise, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lire 75% des livres que j'ai amenés. Et j'en ai acheté en plus que je n'ai pas lu. Donc, c'est ça. Mais j'étais bien content. Il était dans ma valise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais l'intention de le lire bientôt. Donc, c'est ce qui va se passer, mais on va voir. Petite annonce, donc, pour le mois de juillet, on va lire Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot. Pour le mois d'août, on va lire Exa de Gabriel Fito-Shiba, selon ta recommandation. Donc, tu es entièrement responsable de comment ça
oui,
se passe.
Oui, je le
prends. Puis, on va lire le tome 6 des Chroniques de San Francisco, qui s'appelle Bye Bye Barbary Lane, je pense. C'est le tome 6 des Chroniques de San Francisco au mois de septembre, mais dans quelques jours, dimanche prochain, on va lire Match de Lily Boisvert. J'ai bien hâte de parler de ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre-là et tu seras avec moi pour parler de ça.
Certainement.
Donc, ça se passe là dimanche prochain dans la journée. Et c'est ça. Sinon, ça, c'est à venir. J'ai fait les choses dans le désordre. J'ai fait ce qui était à venir, mais parle-moi donc d'une recommandation culturelle que tu as pour nous laisser là-dessus.
Là, Sylvain, j'ai des dilemmes internes.
D'accord.
Parce que au niveau culturel, j'ai pas vu grand-chose depuis, ou en tout cas grand-chose d'intéressant. Mais là, mon dernier coup de cœur livresque, j'en ai vraiment beaucoup parlé à mon podcast. Fait que là, j'étais comme, je vais pas juste comme remâcher des choses que j'ai déjà dit dans un autre podcast à ton podcast.
Mais j'inviterais les gens à aller écouter ton podcast pour savoir de quoi tu parles.
C'est bien gentil. Mais là, je me suis demandé, est-ce que je te parle de musique? Parce qu'il y a quelque chose que j'écoute depuis un petit moment, mais j'étais comme, ah, c'est dur de parler de musique. J'ai décidé d'aller avec une lecture que j'ai faite un petit peu plus tôt dans le début du mois. Et là, j'y pense encore à ce roman-là. Et ça m'obsède un petit peu. Fait que je vais vous parler rapidement de « Mon Mirador » de Myriam Beaudoin.
Okay.
Habituellement, cette autrice-là est connue pour « Hadassah ». C'est le roman qui l'a mis sur la map. Les gens, habituellement, lorsqu'ils ont lu Myriam Beaudoin, ont lu « Hadassah ». Et moi, ben, j'ai fait complètement l'inverse. Le seul que je n'ai pas lu, ben, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. C'est « Hadassah » parce que j'ai lu « 33 chemins de la baleine », que j'avais beaucoup aimé, quelque chose de quand même très doux. Et j'ai lu ici « Mon Mirador », qui est une fin du monde, complètement. Et je ne sais pas comment expliquer ce roman-là, Sylvain. C'est 200 pages avec trois protagonistes qui sont des personnes qui ne sont jamais mises de l'avant dans la vie. On parlait beaucoup de respect hein, de Monique Proulx pour ses personnages, beaucoup de respect pour ses personnages ici. On a une femme qui travaille, je pense, avec des adultes, avec des limitations. Tu sais, c'est pas vraiment écrit exactement avec quel genre d'adulte elle travaille, mais en tout cas, tu sais, dans une genre de pension ou un centre pour personnes adultes avec des limitations. C'est une genre de femme super carrée, là, comme forte. Je la vois comme un 6 pieds, puis elle va partir de sa maison, elle va tout laisser derrière parce qu'il y a comme des inondations qui s'en viennent, qui vont tout engloutir. Puis il y a un petit enfant là, de 5 ans qui va l'attraper, elle va le mettre sur son dos, puis elle va partir à la course pour comme se sauver. Elle réfléchira même pas, comme elle va juste voir le petit, elle le met, puis elle part. Puis elle va arriver sur un mont, le mont Mirador, et elle va croiser un ermite que ça fait des années qu'il n'est pas sorti de chez lui, qui va voir quelqu'un, ça fait des années qu'il n'a pas vu quelqu'un, qui va capoter, qui va être comme, est-ce qu'il faut que je tue cette personne-là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai été découvert? Puis ça va être comme ces trois personnages-là qui vont attendre la fin du monde, parce que comme, qu'est-ce que tu peux faire rendu là? Tu sais, comme ils vont se surélever dans les arbres, ils vont faire une construction, puis t'attends. Puis c'est comme ce roman-là, c'est une grosse caresse de l'autrice pendant qu'elle nous chuchote des horreurs, tu sais.
Ah, mon Dieu!
Fait que là, j'ai lu un autre livre comme post-apocalyptique récemment, puis je fais juste penser à celui-là comme à ces trois personnages-là sur leur genre de radeau surélevé, puis qui attendent la fin, puis tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, puis comme, est-ce que ça va arriver? Je suis complètement bouleversée, c'est vrai.
Wow!
C'est ma recommandation. Il faut être prêt quand même, je pense, pour lire ça. C'est 200 pages qui se dévorent pas, dans le sens que comme t'as pas envie d'aller mourir avec eux, mais comme, au final, ça se lit super bien, puis c'est comme vraiment bouleversant, comme ambiance. Voilà.
C'est une super recommandation, je note. C'est sorti cette année, ça?
Non, c'est pas de cette année, mais je pense pas que c'est super vieux, un petit peu. Je l'ai... 2023, oh, l'année passée.
Ah, OK. Ben, je pense l'avoir vu à mon travail, mais oui. J'en avais pas vraiment entendu parler, donc je suis bien content que tu me parles de ça. Ça a l'air vraiment très bien. Je note.
Parfait.
J'ai parlé de mon voyage à Toronto et j'ai envie de vous dire que c'est ça, j'ai fait un petit trip à Toronto, puis je suis allé voir Wicked, la comédie musicale, puis je trouve ça un peu plate de vous parler de ça puis de vous dire que c'est bon parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir aller le voir, c'est pas prêt, ça prend de l'argent, puis même si c'était au Québec, ça coûterait cher le billet parce que c'est une grosse production. Mais je vous assure qu'on voit l'argent. on voit où ça a été placé. C'est pas des vedettes qui ont des gros égos qui veulent du champagne. Non, c'est comme... Les effets spéciaux sont extraordinaires. Je regardais ça. Il y a des trucs qu'on se doute comment c'est fait. Quand il y a des danseurs qui passent derrière, on sait qu'il y a des harnais qui sont détachés ou des trucs comme ça. Mais il y a aussi des choses que j'ai aucune idée de comment c'est fait, puis c'est vraiment impressionnant. C'est Wicked, ça raconte l'histoire, en fait, du magicien d'Oz, mais du côté de la méchante sorcière de l'Ouest, donc la Verte. On suit vraiment son histoire, son amitié, sa relation de frenemies avec Glinda the Good. Et vous connaissez absolument pas cette comédie musicale-là, vous connaissez au moins le popular. You gotta be popular. Parce que c'est partout sur TikTok. Donc, vous connaissez au moins ça. Mais quelle comédie musicale. Et j'ai vraiment été... Moi, j'allais là parce que je me trouvais à Toronto. Puis c'est une comédie musicale. Puis ça fait des années que ça roule. Fait que ça doit bien être bon. Fait que je suis allé le voir. Mais au-delà de l'aspect magique, fantastique, beau, et du Magicien d'Oz, parce qu'on se rappelle que j'aime beaucoup le Magicien d'Oz, au-delà de cet aspect-là, il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a un propos, il y a un parallèle à faire avec le nazisme, il y a des propos qui sont tenus qui sont intéressants, la manipulation de l'information, qu'est-ce qu'on croit savoir, qu'est-ce qui est la réalité, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc, au-delà de juste un divertissement, il y a matière à réflexion, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Donc, très beau spectacle à voir. Espérons que ça arrive au Québec, que ça serait bien le fun. Ça, c'est le genre de spectacle très intéressant à monter au Saint-Denis. Je dis ça comme ça, là, parce que le Saint-Denis nous a habitués à des gros spectacles musicaux avec à grand déploiement. Donc, ça pourrait être intéressant. Puis c'est ça. Sinon, si vous avez la chance, si vous avez la capacité de le faire, puis je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez la chance, je pense que ça vaut la peine d'aller le voir en dehors du Québec, si c'est pas présenté au Québec. Bref, gros coup de cœur pour ce show-là et gros coup de cœur pour toi. Merci d'avoir été là.
Oh, gros plaisir, toujours un gros plaisir.
Excellent. On se revoit bientôt pour Un ange comme nous avec les airs de tôle et on se revoit dimanche pour Match. Alors, merci d'avoir été là et on se retrouve tout bientôt.